VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Dakar, 14h à Brazzaville. Bienvenue à notre journal. En République démocratique du Congo, l'armée congolaise confirme la mort du général Sylvestre Muda Chumura, commandant des FDLR, les Forces démocratiques pour la libération du Rwanda, une milice rebelle rwandaise présente dans l'est de la RDC depuis le milieu des années 1990. Selon le général Richard Kasonga, porte-parole de l'armée congolaise, le commandant Muda Chumura a été tué par les forces armées de la RDC avec plusieurs de ses lieutenants hier soir dans la chefferie de Bouizo, territoire de Rutshuru, province du Nord Kivu, dans l'est du pays, région proche du Rwanda. Le général Kasonga a qualifié la mort de ses chefs rebelles rwandais de bonne nouvelle pour la RDC. Sylvestre Muda Chumura était à la tête de la branche radicale des FDLR qui s'opposait au programme de rapatriement volontaire des rebelles rwandais dans leur pays natal. La Cour pénale internationale avait émis un mandat d'arrêt contre lui pour 9 chefs d'accusation, notamment meurtre, viol et torture. RDC toujours, l'ex-ministre congolais de la Santé, Oli Ilunga, a été inculpé mardi pour détournement présumé de fonds alloués à la lutte anti-Ebola sur fond de la deuxième épidémie de fièvre hémorragique la plus grave de l'histoire et de rivalité avec le président Félix Tshisekedi. Le docteur Oli Ilunga a été placé en résidence surveillée à Kinshasa après une journée d'audition au parquet, selon son avocat Guy Kabeya, qui a fait savoir que, et je cite, « l'instruction du fond du dossier continue ». Le docteur Ilunga, médecin en Belgique avant d'être ministre, avait été interpellé samedi dernier par la police et accusé de vouloir gagner l'étranger. Il était sous le coup d'une interdiction de quitter le territoire national. Au Congo-Brazzaville voisin, la ministre de la Promotion de la Femme, Inès Nefer Ingani, a été démise de ses fonctions mardi après la divulgation sur les réseaux sociaux de la remise d'une importante somme d'argent au chef de file de l'opposition par les services de la présidence. Selon certaines sources, la ministre Ngani aurait favorisé cette publication. De Brazzaville, notre correspondant Arsène Séverin fait le point.
Dans le décret qui démet Inès Nefer Ingali de ses fonctions, le président de la République n'en souligne pas la cause. Mais la semaine dernière, le chef de file de l'opposition Pascal Tatsema Diala et son parti, l'UPADS, avaient réclamé sa tête, menaçant de la traduire en justice pour propos diffamatoires. En effet, une conversation téléphonique qui impliquerait la désormais ex-ministre de la Femme et un jeune cadre du PCT, le parti au pouvoir, dévoilait que le chef de l'opposition avait reçu d'importantes sommes d'argent de la part de la présidence de la République. Conséquence, le chef de l'État et son premier ministre n'ont pas hésité de faire partir la ministre qui est par ailleurs députée à Brazzaville. Nefer Ingani n'a pas eu de la chance car quelques mois avant, une autre conversation téléphonique impliquant une ministre et un officier supérieur de la police s'était retrouvée sur les réseaux sociaux mais sans coûter un quelconque poste. De la mémoire récente de la politique du Congo, jamais un ministre n'a été viré du gouvernement fut-il par décret présidentiel. C'est toujours par remaniement ou réaménagement que les ministres, même démissionnaires, quittent le gouvernement. Le cas Ingani est donc emblématique et devrait interpeller sur le fait que les réseaux sociaux sont en train de devenir une arme politique très redoutable au Congo. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
La lutte contre les djihadistes au Sahel, la situation de Kidal, grande ville du nord-est du Mali, suscite l'inquiétude des pays de la sous-région pour lesquels cette localité servirait de base arrière à des djihadistes. Une accusation lancée publiquement par le président du Niger, Mahamadou Issoufou, début septembre, et répétée au milieu du mois par Maman Sidikou, secrétaire général du G5 Sahel, la force régionale engagée dans la lutte contre le djihadisme. Kidal fait partie des vastes zones du Mali qui échappent de facto à l'autorité de l'État malien. Prise en 2012 par les rebelles salafistes, la ville est aujourd'hui, malgré la présence de bases françaises et onusiennes sur place, sous le contrôle des ex-rebelles séparatistes Touareg de la CMA, la coordination des mouvements de l'Azawad, qui se sont soulevés contre le pouvoir central en 2012 avant de signer un accord de paix à Alger en 2015. Résultat de la controverse, la réunion du CSA, le comité de suivi de l'accord d'Alger de 2015, initialement prévu à Kidal hier mardi, a été reportée.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Afrique du Nord maintenant, en Tunisie, le second tour de la présidentielle opposera l'universitaire indépendant Kais Saied à l'homme d'affaires en prison Nabil Karoui, d'après les résultats publiés par l'instance électorale nationale. Le candidat du parti d'inspiration islamiste, Ennahda, Abdel Fattah Mourou, est arrivé troisième. Les deux candidats en tête ont fait campagne en s'appuyant sur le sentiment de rejet par les Tunisiens de la classe politique aux commandes depuis la révolution de 2011. Pour une analyse, Idriss Fall a joué notre confrère Mourad Selami, rédacteur en chef du journal Le Quotidien à Tunis.
Comment expliquer cela? Ben, tout bonnement, le peuple tunisien sanctionne les gouvernants pour la bonne raison qu'ils n'ont pas réussi à accomplir les objectifs de la révolution tels qu'ils ont été conçus et prévus par cette population. Celui qui ne réussit pas, il n'a qu'à quitter. Les Tunisiens veulent faire valoir leur choix, veulent faire réussir leur révolution.
Mais maintenant, est-ce que les deux qu'ils ont choisis, Kais Saied et Nabil Karoui, est-ce qu'ils pourront répondre aux attentes face aux défis de la pauvreté, les défis du chômage qui avaient enflammé la Tunisie avant 2011, notamment à Sidi Bouzid?
Ben, deux volets dans ma réponse. D'abord, le régime tunisien est un régime parlementaire. Donc, du coup, la fonction constitutionnelle du président de la République, c'est surtout une fonction de sécurité, une fonction de diplomatie, de représentation de la Tunisie à l'échelle internationale, pas une activité socio-économique. Donc, sur ce plan-là, non, c'est pas la fonction du président de la République d'assurer ses objectifs de la révolution.
Et Ennahda dans tout ça, qui avait remporté les élections législatives, et le parti Nida Tounes dans tout ça alors?
Ben, Ennahda, c'est le vice-président de l'Assemblée, c'est un Nahzaoui. Le Abdel Fattah Mourou qui est venu troisième est un Nahzaoui. Donc Ennahda est sanctionné. Par contre, tout comme Nida Tounes est divisé en 5 ou 6 partis, et qui, représentant dans les présidentielles, il y avait 5 ou 6 Nida Tounes, et qui ont échoué tous. Ennahda a régressé. Le public d'Ennahda était 1 500 000 en 2011. Il est devenu 800 000 dans les élections de 2014, et dans cette élection, il ne sent que 350 000. Donc Ennahda a été rouillé, si j'ose dire, par le système. L'islam politique a été rouillé par la démocratie.
Notre confrère Mourad Selami, rédacteur en chef du journal Le Quotidien à Tunis. Et puis en Algérie voisine, des milliers d'étudiants ont manifesté dans les rues d'Alger mardi, 2 jours après l'annonce par le pouvoir de la tenue d'une présidentielle le 12 décembre. Un scrutin rejeté par le mouvement de contestation, Irénée Herman Umbo.
Des tensions sont apparues quand la police a empêché les manifestants d'avancer jusqu'à la Grande Poste, symbole de la contestation qui agite l'Algérie depuis le 22 février. Selon des témoins, la police a arrêté au moins 10 manifestants et confisqué les téléphones portables des personnes qui avaient filmé les interpellations. Les étudiants manifestent chaque mardi depuis plusieurs mois. Des rassemblements plus larges ont lieu chaque vendredi. La manifestation d'hier était le premier rendez-vous depuis l'annonce dimanche par le pouvoir de la tenue d'une élection présidentielle le 12 décembre. Le mouvement de contestation rejette la tenue d'un scrutin et demande le départ de l'ensemble du système au pouvoir depuis 2 décennies. Une précédente tentative d'organiser une présidentielle le 4 juillet avait échoué en l'absence de candidats.
Élection en Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou et son rival Benny Gantz sont à égalité et dans l'incapacité de former un gouvernement de coalition après dépouillement de la quasi-totalité des votes aux législatives de mardi. C'est ce qu'indiquent aujourd'hui plusieurs médias israéliens. Après dépouillement de plus de 92% des suffrages, les partis des deux rivaux obtiennent chacun 32 sièges sur les 120 de la Knesset, le Parlement israélien, et ne parviennent pas, même avec leurs alliés respectifs, à franchir le seuil des 61 députés pour obtenir une majorité. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.